L'exposé de ce soir s'intitule « Libérer l'esprit, soulager le cœur ». Tout un programme. Et bien, nous venons de passer un solstice, il n'y a pas bien longtemps. Et nous nous apprêtons à terminer une année et à commencer une autre. Moment de transition, nous en avons beaucoup dans notre année. Celui-ci est un petit peu plus marquant. Et j'imagine que pour vous, comme pour moi, c'est un temps de réflexion, comme j'ai pu déjà l'évoquer, mais aussi de perspective. Et en cette période actuelle, alors que les conditions politiques, sociales et environnementales dans le monde entier, on peut dire, sont de plus en plus incertaines, pour ma part, en tout cas, je trouve que notre pratique du dharma est plus importante que jamais. Pour chacun d'entre nous personnellement, déjà, pour avoir quelque part, comme on a pu l'exprimer, un sens. Beaucoup de personnes sont désorientées, nous sommes aussi, mais nous avons au moins une possibilité d'avoir un sens. Et le dharma en est un, il est assez profond. Et donc, personnellement, moi, ça me réjouit qu'on puisse passer ce temps, ce moment de transition ensemble, en pratiquant la méditation, comme on le fait. Mais c'est aussi pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, un cadeau pour les autres, sur cette planète magnifiquement belle et terriblement troublée. Donc, je pense qu'il y a cette dimension d'interpersonnel qui est évidente, mais il est vraisemblable que nous pouvons vraiment trouver et puiser dans nos propres ressources et ensuite les transmettre, les offrir à autrui, notre environnement proche et même bien plus lointain. Pour le Dalai Lama, le but d'une pratique spirituelle, il le dit encore et encore, est de parvenir à accomplir notre bonheur. Donc on peut avoir beaucoup de mots quant à cette dimension de que peut vouloir dire le bonheur. Et je crois que pour chacun, c'est quelque chose qui est très personnel en réalité. La dimension du bonheur est quelque chose qui est très... très évidente pour certains, pas du tout pour d'autres. Ce mot, certains en ont horreur. Donc la joie, peut-être un mot aussi similaire, d'avoir des impressions et des capacités de pouvoir s'emplir de joie, de quelque part de gratitude. Donc je vais citer le Dalai Lama maintenant. Il dit « Tous les humains sont égaux, dans le sens qu'il souhaite être heureux, mais il ajoute « Posez-vous la question. » À chacun, je pose la question. C'est lui qui parle. Qu'est-ce que le bonheur? Ne cherchez pas de réponse. Vivez chaque instant. Qu'est-ce que le bonheur? Ne cherchez pas de réponse. Vivez chaque instant. Donc c'est véritablement ce qu'on est en train d'explorer et ça me réjouit de pouvoir avoir un sens de conscience bien plus élevé, de pouvoir justement élever notre capacité de pouvoir vivre chaque instant. En 2009, il a donné une conférence à Montréal que j'ai pu entendre par la suite et j'aimerais vous lire une partie du texte qui a été évoqué lors de cette conférence. Donc c'est un grand maître spirituel, il y a pas mal de maîtres spirituels sur cette terre encore vivants et c'est évident que c'est assez étonnant de lire comment il perçoit lui le monde spirituel et comment il peut l'évoquer. Il dit « La révolution intérieure que je préconise n'est pas du tout une révolution religieuse. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'importait guère qu'un être soit croyant ou non. il est beaucoup plus important qu'il soit bon. Qu'il nous vienne du dehors, comme les guerres, la violence et le crime, ou qu'il se manifeste au-dedans de nous sous forme de souffrance psychologique et affective, nos problèmes resteront sans solution, aussi longtemps que nous continuerons d'ignorer notre dimension intérieure. C'est cette ignorance qui explique qu'aucun des grands idéaux mis en œuvre depuis plus de 100 ans, démocratie, libéralisme, socialisme, n'aient réussi à apporter les avantages universels qu'ils étaient censés procurer. À n'en pas douter, une révolution s'impose. Mais pas une révolution politique, économique ou même technique. Nous en avons assez. Ce siècle en a connu assez pour que nous sachions désormais qu'une approche purement extérieure, aussi utile soit-elle, ne saurait suffire. Ce que je propose est une révolution intérieure. Ça, c'est fort, ces mots. Hein? Donc, cette extraordinaire capacité de pouvoir, en tout cas pour moi, quand je lis ça et que je le relis à notre activité, ici même, à notre manière de nous mettre en jeu, à notre manière de nous disposer à justement explorer notre intériorité, ça a tellement de sens. Ça a tellement de sens. Et ce qui est réjouissant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la même situation que nous. Je peux citer beaucoup de sanghas, j'ai beaucoup d'amis dans différents lieux sur cette planète. Il y a beaucoup de retraites qui sont proposées, des retraites de fin d'année. Donc, il n'y a pas qu'Espace Rivoire et ce petit coin de paradis tout à fait tranquille. On peut se relier de manière très, très claire, très évidente à notre sangha, si nous en avons une, dans le lieu où l'on vit, ailleurs. Et il y a aussi une multitude de lieux où il y a justement ces personnes qui s'adonnent à l'exploration de cette intériorité dont parle le Dalai Lama. Donc, vivre l'instant présent. Ne cherchez pas le bonheur, vivez l'instant présent. Alan Watts dit « On pourrait dire que la méditation n'a pas de raison d'être ou n'a pas d'objectif. À cet égard, elle diffère de pratiquement tout ce qu'on fait par ailleurs, sauf peut-être quand on joue de la musique ou que l'on danse. » Quand on joue de la musique, on ne le fait pas pour atteindre un certain endroit. On ne le fait pas pour atteindre la fin du morceau. Si tel était le but de la musique, il est évident que les joueurs les plus rapides seraient les meilleurs. De même, quand nous dansons, le but n'est pas d'atteindre un certain endroit de la piste, comme lors d'un voyage. Quand nous dansons, tout l'intérêt est dans la danse elle-même. Quand nous jouons de la musique, tout l'intérêt est dans le fait de jouer. C'est exactement pareil dans la méditation. Donc j'espère qu'il y a cette exploration que nous avons pu goûter en marchant, en mangeant, en étant simplement conscient d'instant en instant. Cette méditation qui, quelque part, est la découverte de notre propre existence, de cette vie, et qui peut se trouver que dans l'immédiateté. Et donc, ceci peut se passer dans un contexte extrêmement particulier, comme le nôtre, pendant ces quelques jours, mais ça peut naturellement aussi émerger dans notre vie, dans notre existence, au quotidien. Il y a plein de possibilités et de manières d'entreprendre une activité en ayant cette qualité de présence dans l'activité. Le mystère est toujours là. Je trouve que le mystère est toujours là. Il suffit de pouvoir quelque part être présent pour ressentir le mystère tout autour de nous. Ça implique aussi qu'on puisse quelque part laisser entrer les joies, qu'il y a de la joie, qu'il y a de la beauté, Et ça implique qu'on puisse aussi laisser entrer les peines. Et donc les joies et les peines sont les trames de nos vies. Tout un chacun, nous avons cette extraordinaire capacité de ressentir la vie en nous. Et par moments, on peut très bien se rendre compte, et vous êtes certainement rendu compte de ceci, c'est qu'il nous est demandé d'emplir son cœur, quelque part, non seulement de patience, mais de courage. Je parlais du mot patience, mais j'ai aussi parlé du mot courage, dans le sens de pouvoir être en accueil. Donc plutôt que de considérer les pratiques méditatives comme une solution à rechercher, voire une solution rapide, hein, parce qu'aujourd'hui tout doit être rapide, tout doit être considéré comme un moyen quelque part de trouver des solutions rapides. Même dans les milieux thérapeutiques, on a quelque part des propositions qui sont de résoudre un problème. Ici, nous avons cette extraordinaire possibilité. C'est un moyen de bâtir, il me semble, un terrain solide qui nous soutient, un socle en réalité, et qui nous permet de demeurer centrés, lucides, dans un monde qui est complètement en mouvement. Donc c'est pas rien d'avoir un socle, un terrain sur lequel on peut bâtir nos expériences et demeurer au contact d'un certain équilibre et laisser entrer la vie sans continuellement superposer nos exigences et nos attentes. Et ça, je crois que quelque part, en tout cas, ça a été évident pour moi que vous avez vraiment joué le jeu et puis vous avez été très extraordinaire dans votre honnêteté et sincérité dans les partages. Donc c'est pour ça qu'on est très, très heureux d'avoir ces petits groupes d'entretien qui permettent justement le rapport. Et non seulement notre rapport entre vous et nous enseignants, mais entre nous, au sens large, de pouvoir vraiment sentir et entendre les uns et les autres et de pouvoir considérer que notre humanité, elle est partagée. Et que c'est incroyable quand on est ensemble comme ça et qu'on est un peu dans le vrai. Très souvent on est un petit peu dans le persona où on n'ose pas se montrer dans le sens comme on le fait ici, dans le sens de vraiment quelque part se livrer un petit peu par rapport à ce qu'on ressent, exposer notre intériorité. Eh bien, je trouve ça extraordinaire que de pouvoir avoir cette possibilité de la confiance partagée et de pouvoir découvrir l'être et combien nous sommes similaires, combien on est tellement semblables les uns et les autres dans notre humanité. Vous partagez cette impression? C'est fou parce que très souvent dans nos récits et cette façon d'être tellement préoccupés par qui on va être, comment on va se montrer, nos attentes. On imagine que l'autre attend quelque chose de nous, qu'est-ce qu'on devrait dire ou qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire. Et comment on pense finalement que les choses devraient être ou comment on devrait être. Ben, quand ces murs tombent un petit peu, il y a quelque chose de très, très nourrissant, très nourrissant et pour ma part très réconfortant. C'est ça que j'aime finalement, c'est extrêmement réconfortant que de pouvoir sentir que l'existence que l'on partage, eh bien, au présent, c'est pouvoir non pas trouver des solutions, mais quelque part se révéler à nous-mêmes déjà tout d'abord, se révéler à soi-même, puis ensuite d'avoir quelque part ce courage de pouvoir partager un petit peu qui l'on est véritablement. Cette dimension d'authenticité. Des fois, ce n'est pas toujours simple. Il y a des situations où c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, Moi, je sais que pour ma part, il y a eu bien des fois où j'ai fait beaucoup d'efforts pour quelque part avoir ce sentiment d'être à ma place et sentir une certaine instabilité et essayer justement de trouver des solutions, essayer d'être une autre personne que celle que je suis, essayer de forcer. Essayer de me présenter d'une autre manière. J'imagine que je ne suis pas seule. C'est assez extraordinaire de voir qu'on apprend aussi en percevant tous nos modes de construction mentale, de fabrication, de jugement, combien on apprend de notre manière de nous présenter. Ces conditionnements, comme on a pu les appeler et comme on peut les nommer, c'est quelque part ces méprises qui sont enracinées, mais qui ne sont pas enracinées totalement dans notre être. C'est enraciné dans une certaine forme d'ego. L'ego, ce qu'on a construit comme ego, c'est-à-dire le je, comment il doit se présenter, comment il a appris aussi. Et donc cette vue fausse ou erronée basée dans la croyance que on devrait être quelqu'un autre qui je suis, ben, c'est quelque chose qu'on va aussi pouvoir explorer et intégrer. Et d'avoir cette confiance que ceci peut aussi faire partie de l'aventure si on a une base solide, si on a un terrain, un socle, comme on l'a quelque part découvert, dans le sens de pouvoir reposer dans nos sensations corporelles, dans nos émotions, bien, ceci va naturellement se manifester par moments. Et que ce n'est pas à juger, mais c'est au contraire à rencontrer et explorer et prendre simplement comme point de référence qui peut servir par moment. Ça peut servir ceci. Et non pas devoir éliminer. Alors ça se passe d'une façon assez naturelle si nous sommes dans une disposition d'esprit où nous ne sommes pas constamment attachés à simplement vouloir éprouver du plaisant. Et je trouve que c'est extraordinaire. Pendant longtemps, on essaye dans la méditation, dans notre vie, d'avoir des expériences plaisantes, que notre vie soit plaisante. Vous êtes d'accord? Et le Bouddha, il parle de ceci d'une façon tellement claire et lui-même, il dit qu'il a été confronté à ceci. Il dit, aussi longtemps qu'il y a l'attachement au plaisant et l'aversion au déplaisant, la libération est impossible. C'est profond, ces mots. Ça veut dire que l'enracinement du conditionnement qui provient de l'attachement, soit au plaisant, soit l'aversion au déplaisant, c'est ceci qui est le piège. C'est vraiment ceci qui est le piège. En tout cas, dans ce contexte, on comprend que l'identification, la saisie, comme on la comprend, provient de ceci. Maintenant, la confusion, c'est qu'on ne voit pas combien on est attaché à vouloir que la vie soit plaisante, que la vie soit agréable, que notre intériorité, qu'on n'ait que des émotions agréables. Donc cette ouverture de la réalité du moment, simplement ressentir, vivre la vie au présent, eh bien, nous permet de nous ouvrir d'une manière inconditionnelle. Si on s'intéresse à la liberté, c'est vraiment essentiel de se souvenir de ce point, ici ou ailleurs. C'est vraiment absolument essentiel parce que c'est dans cette disposition d'ouverture que la réalité est comme elle est et que l'esprit qui peut quelque part intégrer cette réalité va tranquillement être beaucoup moins en réaction et du coup en capacité de pouvoir vivre les hauts et les bas. Et il y en aura. Il y en a eu, il y en a, il y en aura. Donc c'est un leurre que de croire que dans un certain temps, comme on a pu le dire dans un groupe, voilà, j'aurais compris dans 6 ans, dans 20 ans. Dans c'est un leurre, cette mise à distance de notre capacité de pouvoir être quelque part en mesure de recevoir toute la vie, pas seulement une partie de la vie tout entière, tout ce qui émerge, et bien dans cette perspective de méditation, c'est ceci qu'on va appeler liberté. Donc si on s'intéresse vraiment à la liberté, c'est pas juste avoir un meilleur rêve que le cauchemar qu'on a pu avoir il y a quelques nuits. Donc on explore cette possibilité, mais dans le sens concret. Et c'est ça qui est tellement touchant pour moi dans cette pratique, dans cette méditation, c'est que il n'y a pas cette transcendance, comme si un autre monde devait être meilleur dans notre immédiateté, dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde concret, réel, de l'ici et maintenant. Et constamment, on a ce rappel. Et ça, je trouve que c'est juste incroyable parce que beaucoup des propositions sont justement la transcendance. Le Bouddha visite une personne malade. Et puis, ensuite, il va visiter une personne qui est mourante. Et aux deux, il demande, les douleurs diminuent-elles? Et les deux personnes disent non. Vénérable, les douleurs ne diminuent pas, au contraire, elles sont plus intenses. Et le Bouddha leur dit, alors que ton corps est affligé, perturbé par la douleur, puisse ton esprit être non affligé, non perturbé. C'est assez extraordinaire cette distinction. Qu'est-ce que ceci pourrait vouloir dire? Ça peut vouloir dire, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, c'est qu'il peut y avoir naturellement cette dimension de la douleur qui est inévitable dans notre existence, mais qu'on peut commencer à devenir conscient de l'esprit qui n'est pas en réaction par rapport à la douleur physique. J'ai vécu ça, je crois que je l'ai déjà dit, si vous étiez normalement d'un enseignement en m'écoutant, c'est possible que... Voilà, c'est un exemple tout à fait personnel. On était dans un lieu absolument merveilleux, un week-end à la montagne, il faisait beau, enfin les conditions étaient absolument extraordinaires, géniales. Quoi. Vous savez, ce genre de week-end, de rêve. Voilà, tout est plaisant. Sauf que malheureusement, il y a un moment donné, lors de ce week-end, où tout à coup... Soudainement, j'ai eu un mal de dents. Et il était assez intense, tellement intense que le week-end a été écourté. Et l'expérience était tout à fait déplaisante. Comme on sait, je ne sais pas si vous avez supporté le mal de dents, moi je ne le supporte pas du tout, donc je suis vraiment très réactive par rapport à tout ce qui se passe au niveau des dents. Mais en tant que méditante, parce que c'est toujours possible de méditer en toute situation, bien, il y avait un point d'investigation avec la présence attentive qui m'a fait réaliser que c'était tellement contrasté que l'esprit qui avait quelque part conscience du plaisant, où c'était tellement clair que c'était agréable, était exactement le même que celui qui éprouvait le déplaisant au moment où le mal de dents a émergé. C'est-à-dire que la qualité de la conscience n'était pas du tout différente. L'expérience était différente. L'expérience, elle était naturellement plaisante un moment, déplaisante une autre. Mais la qualité de la conscience qui était consciente des deux expériences est exactement la même. Vous comprenez ceci? Mais c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce dont parle le Bouddha. Puisse ton corps, puisse ton esprit ne pas être affligé, ne pas être perturbé. Ben c'est extraordinaire parce que ça veut dire, quelque part, que cette présence attentive dans la conscience a très bien pu reconnaître chaque expérience, l'absence de résistance dans le sens de la réaction à un moment donné, pas tout de suite, mais je me suis dit, ok, eh bien, il y avait là la possibilité d'être en mesure de vivre l'expérience sans que la nature de la conscience soit atteinte. C'est une conscience sans réactivité. C'est évident que ça a duré un certain temps et puis après, c'est passé. Hein. C'était une expérience vive, intéressante, mais je me suis dit, waouh, c'est possible. Mais après, la douleur était tellement intense que j'ai réagi. C'est revenu la réaction. Il n'empêche que ce moment de découverte est incroyable quand ça nous arrive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'a vraiment à nouveau mis dans une situation où je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on recherche là, au niveau voilà, du bonheur, de la joie, du bien-être, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est l'absence de désir attachement, d'aversion et de confusion. C'est ça la paix. C'est pour ça que quelque part, on dit, mais vivre dans l'instant présent, ça ne peut pas être dans un autre lieu. Donc la paix qui émerge en nous naturellement, c'est simplement synonyme de rien repousser quand c'est douloureux et ne pas s'attacher quand c'est plaisant. C'est sans agrippement, sans évitement. Sans agrippement, sans évitement. Mais ce n'est pas facile, hein? Donc voilà, on a besoin de quelques retraites pour continuer d'explorer ceci et aussi du temps entre les retraites, parce que c'est très important de pouvoir l'explorer. Ben voilà, vous voyez, comme j'ai exploré en week-end, ou en toute situation. Mais c'est vraiment dans ce rapport à l'expérience, cet esprit qui chaque fois se laisse prendre dans l'identification, c'est insupportable, je ne peux même pas explorer, il faut que ça cesse tout de suite. Donc lorsque l'esprit s'embourbe dans ces difficultés, ben, à ce moment-là, il y a vraiment exactement le contraire de la liberté, c'est la contrainte, c'est quelque part l'emprisonnement. Donc à chaque rencontre, à chaque découverte, on a cette capacité de pouvoir explorer ce que je viens d'exprimer. La vie nous donne cette proposition. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on peut justement, à un moment donné, comme j'ai pu le faire, découvrir cette présence de l'intimité et du soulagement qui provient de l'absence de saisie. Il y avait juste une absence de saisie à ce moment-là. Rien d'autre. Rien d'autre. Après, j'étais bien contente d'aller voir le dentiste, hein, on est bien d'accord. Donc, il y avait un autre moment de joie, c'est quand le mal de dents a vraiment cessé. Parce que on s'en est occupé. Donc, se sentir libre dans certaines situations qui semblent tellement pesantes, tellement lourdes, lorsque des fois il y a des émotions, des troubles lourds, le cafard, le bourdon, comme on dit. Pas très drôle. Ça nous arrive, ça. Se rendre compte, quelque part, que l'attachement à vouloir s'en débarrasser est là où le bas blesse. C'est vraiment cette contraction, cette résistance. Ah tiens, le cafard, comment c'est? Ah mais c'est super intéressant de vivre le cafard. J'ai eu un petit moment de ça ce matin. Ah ouais, le cafard. Je ne sais pas pourquoi ce mot m'est venu, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu ce mot dans mon esprit. Et puis l'intérêt d'explorer le cafard, il a disparu. Puis je me suis dit, ah ouais, mais il y avait effectivement l'intérêt qui a pris la place du cafard. Donc sans figer le processus. Sans figer le processus, c'est trop génial de s'intéresser au cafard. Donc rien de contracté, rien de figé, pas de saisie. C'est vraiment ça l'absence de la souffrance, quand on peut rester proche dans notre intimité. Donc cette vie intérieure, elle fleurit, elle s'épanouit, elle reste constamment étonnante. Et je trouve magnifique de pouvoir, quelque part, se rendre compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Oui, c'est ça, c'est que l'illusion, elle tombe là. Quand on peut s'intéresser au cafard, l'illusion de devoir encore et encore plus, on sait bien, je veux dire, il y a vraiment là une évidence, mais tellement grande, je crois, et pas uniquement pour les personnes qui sont dans une recherche intérieure, mais que. Ben voilà, que ça ne le fait pas, quoi. Il y a vraiment une dimension qui fait qu'on se questionne tellement sur notre condition humaine aujourd'hui. Donc ce socle, ce terrain solide, eh bien ça devient l'espace depuis lequel on peut naturellement découvrir toute la vie en entier. Présent notre ressenti, éprouver de la tristesse, du chagrin, de la joie, de l'amour. Libérer son esprit, soulager son cœur. Se sentir libre. Ça mène à cette qualité d'intimité. C'est une intimité qui ne dépend pas de conditions particulières. Donc il y a de l'espace parce qu'il n'y a pas la saisie. Donc il y a beaucoup d'espace parce qu'il n'y a pas la contraction. Et en même temps, il y a énormément d'intimité. Donc c'est extraordinaire cette intimité parce que ça donne quelque part cette capacité de pouvoir justement se sentir relié et ne pas dépendre de conditions particulières. Et une grande indépendance en réalité. Et une confiance. Donc en s'ouvrant au flux de l'expérience. Et la merveille, c'est que quelque part, on sent qu'à ce moment-là, ce cœur qui a confiance, qui peut découvrir qu'est-ce que c'est que la confiance, il devient de plus en plus capable d'avoir le courage de se renforcer et de vivre la vie comme elle se présente et non pas de s'en détourner. Donc des fois, on a un petit peu peur de la sensibilité qui peut provenir de ce que je décris là maintenant. On se dit, oh là là, mais la sensibilité, on peut mettre en équation la vulnérabilité. Pour moi, la vulnérabilité, c'est une immense force. Une immense force, en réalité. C'est justement être vrai, authentique. Cesser de jouer les jeux. Qu'on s'impose et naturellement sont parfois perçus comme étant extrêmement douloureux. Donc voilà les quelques mots que j'avais envie de partager. Passer du temps en silence, franchement seul avec les autres, en relation avec la nature. Comme on a pu le faire et comme on le fait encore, c'est d'une importance vitale. C'est absolument essentiel que par moment, on se retire du monde agité, qu'on prenne le temps, qu'on se ressource. Et tant mieux qu'on l'ait fait et tant mieux qu'on le fasse encore. Chesterton dit « Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. » Et je vais vous lire un petit passage de Belinda Cannon. Elle a un livre qui s'intitule S'émerveiller. Il est très très joli ce texte. Parfois le silence règne. Nous sommes paisibles et concentrés. La lumière est belle et notre regard vigilant. Alors l'émerveillement nous saisit. D'où vient ce sentiment fugitif? Il ne résulte pas forcément de la nature grandiose de la situation ou du spectacle. Souvent, c'est un état intérieur favorable qui nous permet de percevoir une dimension secrète et poétique du monde. Soudain, on vit pleinement, ici et maintenant, dans le pur présent. Cette disposition intime est une conséquence du désir de vivre et de la faculté de joie. Le risque de l'enténébrement a frappé notre époque, mais il faut d'autant plus persister à évoquer l'émerveillement, car la construction du bonheur, le respect de chaque vie précaire, précieuse et susceptible d'accueillir les plaisirs, en même temps que le labeur, sont la marque de notre conception de l'existence. Ici est notre séjour. Y porter un regard attentif est le plus sûr remède contre le nihilisme. C'est vrai qu'il faut se méfier du nihilisme. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, Belinda Cannon, elle a vraiment plusieurs textes qui sont admirables, qui sont vraiment très, très poétiques et qui parlent exactement de ce que l'on explore ici et maintenant. Donc il y a cette dimension que plus on va découvrir notre propre intimité, je peux même parler de grâce intérieure, de noblesse, bien, plus ces qualités pourront être ressenties, plus ensuite elles pourront s'exprimer à travers nous. Et je crois que plus nous serons nombreux à vivre de cette façon, collectivement, à oser être authentique, à oser simplement être nous-mêmes, être vrai, eh bien, c'est le cheminement vers plus de solidarité. On a vraiment besoin de la solidarité. Donc, je vous invite à être confiant dans votre capacité à faire une différence dans notre manière de nous engager dans le monde. Vraiment, ayez confiance. Je vais terminer avec la prière de l'abbé Pierre. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.